Couture. Dans le mid.
This is awesome.
Avec Pierre Couture et Frank le Tétomiseur. Radio X.
Ouais, 10h, 1 minute. Bienvenue à Couture dans le mid. Nouvelle saison de radio. On est quand même le 10 août. Frank?
Yes!
Comment ça va?
Ça va très bien.
Nouvel animateur, nouvelle chaise.
Ouais, ouais, ouais.
T'es à l'aise?
Très, très, très. Ben là, écoute, j'ai
on
j'ai
part le bateau, pas loin. Là, c'est ça, exactement. Là,
yes.
Les auditeurs, vous allez être conscients que là, nouvel animateur, nouveau setup. Nick est pas trop loin, Nick est à côté. Là. Fait que Nick est sa supervision. Mais quand même, c'est le fun parce que là, nouvel co-animateur. On s'en va où avec Frank? Frank, t'arrives d'où? Quand même, t'as un passé ici à Radio X. T'es un chroniqueur avec Morin notamment. Les gens te connaissent par Morin. T'étais avec Fillion aussi, Jeff Fillion
ouais,
à l'époque.
Oui, ouais. Au début, Jeff, il m'a fait venir la première fois, je pense 2018 ou 19 à peu près. On a fait des chroniques ensemble pendant un bout. C'est là que la musique a commencé aussi. Puis assez rapidement, ben Morin aussi voulait m'avoir dans son show. Fait que ça a transitionné un peu comme ça. Puis c'est ça, bon an, mal an, mais ça fait des années que les gens m'entendent maintenant. Puis ben là, ils vont pouvoir m'entendre plus régulièrement, comme on dit. Évidemment, le podcast aussi, il y a beaucoup de gens qui me suivent via Yann et Frank. Fait que c'est ça, ils me connaissent aussi par ça, les clips qui circulent sur les réseaux sociaux. Puis le podcast, on a fait pas mal d'entrevues aussi. Ça a donné quand même un bon reach. Là,
des grosses pointures, le Poilievre, entre autres. Vous avez fait l'ancien premier ministre, M. Couillard aussi. Hein?
Oui, ça a été une grosse prise. Philippe Couillard qui donnait pas d'entrevue à personne. Puis on l'avait eu, ça avait vraiment été intéressant parce que c'est quand même un bon brain, pareil, là, qu'on l'aime ou qu'on soit libéral ou pas. C'est pas la question. Là, le monsieur est quand même neurochirurgien. Là, il sait de quoi il parle, puis il était super intéressant. Fait que ça a été un bon coup aussi.
Ton background, parce que beaucoup de gens disent ouais, mais là, Frank, c'est. Toi, t'as un background en philosophie. Hein?
Ouais, moi, je suis pas tout destiné pour la radio à base. Là. C'est ben, comme plein de gens qui en font. Hein. T'as un peu des concours de circonstances. C'est ça, moi, j'étais en philo. Je me destinais pour aller là-dedans. J'ai passé proche à plusieurs reprises de commencer à enseigner au collégial. Finalement, concours de circonstances, déménagement, change de ville, change de contexte. Peut m'amener... c'est ça, comme un peu par hasard, je suis arrivé comme ça à faire de la chronique radio, puis tu vois, ben ça a changé le cours des choses. Fait que tu sais, je suis un gars très politique, puisque un peu comme toi, j'aime ça, politique publique, enjeux de société, des sujets rentrés dans des sujets de fond, jaser avec les auditeurs aussi. Fait que ça, c'est ce que je faisais dans le podcast, puis c'est ce qu'on va faire ici.
Ouais, d'ailleurs, on va garder le mardi et le jeudi la ligne ouverte, fait qu'on va pouvoir jaser avec les auditeurs. Le lundi, le mercredi, le vendredi, tu vas avoir ta chronique autour de 11h, 11h05.
Ouais.
On va aborder des sujets où tu vas aborder des sujets où là, il y a des angles. Puis tu le sais, là, c'est une question d'angle. Hein? Des fois, on regarde l'angle, on a 180, 90, dépendant. Il y a certains médias qui vont pas plus loin parce qu'ils n'ont pas le temps puis ils veulent peut-être pas y aller. Nous autres, on va aller là en arrière. Là. On va regarder en arrière.
L'autre bord du cube Rubik.
Exactement. Fait qu'il y a tout ça aussi dans l'équation. Donc, le show, ben là, les gens disent ouais, pourquoi Frank? Ben moi, j'ai choisi Frank. En fait, Phil Lefebvre m'avait parlé de toi. On s'est assis.
Ouais.
On a eu une bonne discussion. Puis à partir de là, je dis ouais, là, il y a un fit, il y a quelque chose. On va être capable de se relancer. On va être capable de passer à POC, amener la discussion à un autre niveau. Écoute, moi, j'ai Frank. Des Frank, ils n'en passent pas tant que ça là, quand tu as la chance de travailler avec quelqu'un comme toi. Donc, moi, j'ai saisi l'opportunité.
Ben écoute, c'est pareil pour moi. Là. Je trouvais que c'était un fit qui était quand même naturel. Fait que, puis, si tu es capable de jaser pendant 2 heures autour d'un dîner, tu es capable de le faire autour d'un micro, je pense.
C'était drôle parce qu'on était à l'atelier. Puis, écoute, c'était pas subtil notre affaire. Là. C'était la première table sur le bord de la grande allée. Là.
Oui, 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 sur le bord, ben oui.
Moi, je voulais être en arrière dans le fond, mais là, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Là. Les gens ne savent pas ce qui s'en vient, non plus à Radio X. On n'avait pas annoncé que Dom Dumas s'en allait. Nick m'avait annoncé qu'il s'en allait dans le show à Morin. Là, j'étais un peu secoué, mais là, j'ai dit, faut faire de quoi? Faut rencontrer quelqu'un. Puis là, à un moment donné, il y a des noms qui arrivaient. Puis à un moment donné, ton nom est arrivé sur la liste. Puis là, il faut qu'il y ait un fit aussi.
On était sûr qu'on était discret, pareil. sur le bord de la grande allée.
Exactement.
La rumeur veut que notre patron ici, nous a vus, puis il essayait de nous parler à l'autre bord de son char, mais on l'a jamais entendu.
Non, c'est ça, exactement. Il a klaxonné.
Il a klaxonné, tout le monde.
Voilà, fait que le show, la glace est brisée. Écoutez, là, je regarde. Hey, le gaz, Il y a du gaz à 1,53,9 à Québec. 1,52,9. C'est quand même.
OK, pas Costco, là.
Ben, 1,51,9 à Costco.
OK. Moi, j'ai fait hier à Costco 1,55, 57. Ouais, je pense que c'était ça. Fait que ça rebaisse encore.
Ça baisse encore, puis t'as du monde à 1,84,9. Les autres, ils n'ont pas eu le mémo, là.
Ils ont non, pas... ils ont pas eu le mémo.
Écoute, c'est 30 cents, 33 cents de plus.
Mais on dira ce qu'on voudra, pareil, depuis la fin, parce qu'on était plusieurs à le dire, là, mais l'histoire du prix plancher, là, qui ont mis fin dans les, la session parlementaire passée,
oui.
On a quand même vu apparaître des écarts entre les... Avant, tu avais l'impression que c'était le même prix partout, peu importe où tu allais. Puis là, tu vois plus des écarts entre les stations-service. Puis sûr qu'à Québec, en plus, ben, le Costco pèse à la baisse sur les prix. Ça paraît pas toujours, mais...
Il y a Costco, mais là, il y a Couche-Tard. C'est la première année, 1,53,9. Il faut le souligner, là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas vouloir à côté Costco, là. Mais 1,53,9, tu vois, il y a des Couche-Tard qui sont là. Il y a le Écho sur la 18e rue. Hier, je suis passé là, j'ai vu 1,53,9 quand même. Là, il y a des efforts, là. Tu sais, tu le vois, il y a gens qui vendent l'essence, qui veulent vous avoir. Puis là, tu vois que les auditeurs qui nous écrit à Lévis, 1,79. Mais tu vois, Petro-Canada, rue de la Concorde, c'est à Lévis, ça? C'est-tu à Lévis? T'sais? Non, c'est sa rue, c'est d'ici, c'est ce bar-ci.
Ouais.
L'autre bar à Lévis, tu as 1,76,9. 1,81,9. 1,76,9. 1,79,9. Et encore là, c'est Costco, nos chums de Costco qui sont à 1,51,9.
Ouais, tu vois, il y a un auditeur qui nous dit que lui, il a payé du 1,46 en Ontario la semaine dernière. Ouais, vous avez une taxe vous avez un brique de taxe, je pense, en Ontario.
Bien, il y a ça. La taxe fédérale, ici, on l'a partout au Canada, ils l'ont enlevé, là, mais les pétrolières, particulièrement au raffinage. Je ne sais pas si tu as vu les marges de raffinage, là. C'est, écoute, des fois, c'est 50, 60 cents par litre. La business est bonne, là.
Ouais. Puis tu sais, on le voit, là, quand les prix partent à la hausse à cause de l'incertitude, notamment Hormuz, ça part à hausse très vite, mais quand le baril redescend, ça part à la baisse très lentement.
Mais la semaine dernière, le baril de pétrole, écoute, il était monté à 95 $ là. Tu vois, le baril de pétrole, la semaine dernière, il est redescendu à 77, 78. Là, il remonte un petit peu aujourd'hui avec les histoires d'Américains. On sait pas trop, là, avec l'Iran, comment on va finir la discussion, comment qu'on va... atterrir. Il y a les midterms. Trump avance une journée, c'est up and down, turn and twist. Là. Il ne sait plus où danser. Comment tu vois ça, toi?
Ouais, tu veux dire les midterms qui s'en viennent.
Ben, avec le gaz, puis toute l'économie. Puis...
Ben, c'est sûr qu'aux États-Unis, le prix du gaz est un enjeu majeur. Là. D'ailleurs, pour y être allé la semaine passée, notamment, le prix du gaz est quand même beaucoup moins cher qu'ici à cause des taxes, là, notamment. Là. C'était entre 3,60 et 4 piastres le gallon, là, dépendamment de
où
tu vas. Tu as un genre de 1,20 le litre, je pense, à peu près. Là. Fait que c'est moins cher, mais quand même, c'est cher pour eux. Puis là-bas, ben, tu sais, Trump s'est quand même fait élire en disant que ben, le prix de l'essence avait explosé sous Biden. Puis là, c'est encore plus cher. Fait que c'est sûr que s'il va y avoir un enjeu de ce côté-là, puis la guerre en Iran, ben, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler aussi. Mais ils sont empêtrés là-dedans.
C'est un bourbier. Et comment il va s'en sortir? Ben là, je sais pas si tu as vu, là, on parle de joueurs d'échecs. Puis là, ils sont très durs en échec. Trump, ce qu'il essaie de limiter, c'est qu'il contrôle l'accès au port. Il n'y a plus de pétrole iranien qui sort des bateaux parce que ça ne passe pas dans le détroit d'Hormuz. Là, il essaie de les asphyxier. Au niveau mondial, ben, eux autres, ils ont des ententes entre, mettons, l'Iran et la City de Londres. Le cash est dans les grosses banques du côté de l'Angleterre. Le cash est au Canada, dans les banques au Canada aussi. Le gardien de la Révolution, puis les mollas, ils ont de l'argent partout dans le monde. Là.
Ils ont de l'argent partout.
Et ils se prêtent, eux autres, des régimes politiques pour essayer d'amenuiser puis d'essayer d'acheter comme ça des votes.
Oui, puis on voit qu'avec toute cette histoire-là, l'opération au Venezuela fait peut-être un peu plus son sens parce que eux, le but, c'est de redémarrer la production pétrolière là-bas. Là. Je sais pas si tu avais vu les chiffres, mais la production pétrolière entre l'arrivée de Maduro, c'est surtout sous Maduro que ça s'est effondré, ça a diminué au moins par 5, là, la production de pétrole quotidienne qui sort du Venezuela. Donc, les Américains, puis un peu tout le monde a intérêt à ce que les installations là-bas soient modernisées puis qu'on recommence la production. Mais moi, je pense que c'était pas sans intérêt là, ce qui s'est passé.
Non, mais...
C'est clair qu'il y avait une vision un peu plus d'ensemble là-dessus, mais en même temps, ils se sont fait vendre, je pense, une opération un peu éclair en Iran, comme ça a été le cas au Venezuela. On arrive, mais là,
ils
sont pognés avec ça, parce que c'est un régime qui est incrusté là depuis bien plus longtemps, ça fait depuis 1979. Là, donc,
exact. Mais le playbook en arrière de tout ça, c'est la Chine. N'oubliez pas que le Venezuela vendait beaucoup de pétrole à la Chine de façon peut-être pas legit, L'Iran vendait beaucoup de pétrole à la Chine. Les Américains qui veulent reprendre le pétrodollar, là, parce que les autres, ils sentaient que là, on échangeait du dollar, mais il n'était plus sa devise américaine.
Exact.
Et les autres, ils financent leur dette par le fait que les gens achètent du pétrodollar et des obligations américaines pour financer l'œuvre au complet, l'endettement américain. Donc là, si les autres s'entendent... C'était ça aussi, là. Derrière ça, c'est les Américains qui protègent leur lunch par rapport au pétrodollar. Donc, Venezuela, Iran, tranquillement, on commence à vendre, les Américains et les pays alliés commencent à revendre du pétrole à la Chine par les voies officielles du dollar américain. Fait qu'il y a ça aussi, là, tu sais, il y a une game qui est à un autre niveau. Mais comment Trump va sortir de là avec les midterms? Encore là, au cours des derniers jours, l'histoire du burrito, là. Là, c'est parce qu'on commence à amener sur le coût de la vie. Et le burrito, les Américains mangent des burritos. Ben oui, c'est, ils mangent ça beaucoup. Puis ça, les autres, c'est comme une référence. Avant, c'était le Big Mac. Là, c'est le burritos. Puis là, le burritos est rendu à 13$, 14$, 15$. Donc là, Trump, par la force des choses, est questionné. Tu nous avais vendu, tu l'as dit, tu nous avais vendu le coût de la vie dans tes campagnes électorales. Puis le burritos est rendu à 15-16$. À certaines places, c'est 20$ un burritos. Donc ça y rattrape beaucoup.
Mais tu vois, quand on va... Moi, il y a un site que j'aime beaucoup pour suivre ce qui se passe un peu aux États-Unis, c'est Election Betting Odds. Donc ça compile les polymarkets de ce monde et tout ça. Donc autrement dit, les marchés qui anticipent, qui essaient de prédire les résultats des élections.
C'est pas la destruction du Parti républicain. Il y en a qui pensent que les républicains vont manger une grosse volée, là.
Non, mais la volée risque d'être au niveau du contrôle de la Chambre, donc ce qu'on appelle le Congrès. On parle de 82 % de chances d'un contrôle démocrate de la Chambre des représentants contre 17 % pour les républicains. Par contre, au niveau du Sénat, ce sera encore 53 % de chances d'être conservé républicain, 46 % d'aller vers les démocrates. Là, il y a des petites... Je vous épargne les virgules, là. Mais essentiellement, ça veut dire que si Trump en garde une des deux, il conserve quand même un certain pouvoir. Perdre les deux, ce serait...
C'est catastrophique.
Ce serait catastrophique pour lui. Ce serait aussi catastrophique, je pense, pour la suite des choses.
Ben, ça va l'amener... Parce que ça va amener de l'impeachment. Ça va amener toutes sortes d'espèces de procédures.
Exact, exact.
Parce que s'il perd la Chambre des représentants, la prochaine étape, c'est qu'il va y avoir des mesures d'impeachment. On va passer des espèces de règlements pour essayer de le destituer. Et là, lui, il va s'embourber là-dedans, les deux prochaines années ne seront pas le fun.
Ben, entre autres, sur les tarifs, là, je veux dire, la Cour a quand même déclaré que c'était quand même statué que c'était illégal. Donc, si la Cour suprême. Donc, s'il y a des manœuvres qui sont illégales, ils sont obligés de rembourser certaines affaires. Puis ils essaient d'utiliser des virgules de loi qui datent d'une centaine d'années pour dire qu'on peut le faire pareil, tout ça. Donc, tu sais, si tu te fies au premier mandat, ouais. 2010, le premier processus d'impeachment, c'était sur une histoire de téléphone à Zelensky, là. C'est fait qu'ils sont capables d'en faire un autre sur d'autres motifs, les tarifs, peut-être sur autre chose.
Il y avait eu l'histoire des documents, là, tu sais, Biden notamment, puis Hillary Clinton, puis les documents oubliés dans le garage avec supposément des grosses données confidentielles. Puis, fait qu'ils peuvent, ils peuvent l'amener, mais ça va être ça aussi, c'est une game. Là, le wake-up call, c'est le 19 août. Les tarifs, parce que là, vous avez vu les négociations avec le libre-échange, on a décidé aux États-Unis que... 19 août, on augmente de 50 % les tarifs sur bien plusieurs secteurs. Et là, ça force la négociation. On veut forcer Carney à revenir à la table, le Canada. Est-ce qu'on est capable d'avoir un deal? Hey, Carney est parti en vacances en Italie jusqu'au 17 août.
Je ne sais pas combien de temps les Canadiens vont être indulgents avec Carney là-dessus, parce que c'est quand même là-dessus qu'il a été élu, là. Je vais régler l'histoire avec Trump.
Il va y avoir un deal.
Ben c'est ça. Puis, tu sais, pour l'instant, les concessions sont faites plutôt du côté canadien. Donc, la fameuse taxe sur les géants du web. Quelle autre affaire aussi qui ont... c'est toute l'histoire avec le pont Gordia aussi.
Ah, mais t'as des contre-tarifs aussi, là. Il y a plein de contre-tarifs que les Américains sur les voitures, notamment. T'as tout le lait aussi. Il y a des contre-tarifs sur les produits laitiers américains qui rentrent. Fait que on va négocier comment... D'ailleurs, toi, tu vois ça, la game. On va en parler tout à l'heure. On va avoir un économiste qui va nous parler un peu de libre-échange, tout ça. Comment ça se dessine, la game? Où on s'en va? Le foutu, la gestion de l'offre, on va-tu mettre notre chemise là-dessus, vitam aeternam?
Bien, ça, c'est la question que je me pose là-dessus, parce que qu'on soit pour ou contre ce système-là, je pense qu'il y a peut-être certains avantages, il y a visiblement aussi des défauts à ce système-là. Il y en a qui disent que ça protège les agriculteurs, il y en a d'autres qui disent ouais, mais c'est nuisible aux consommateurs, parce que ça nous coûte entre 200 et 1000 $ de plus par année que s'il n'y avait pas ce système-là, parce que les produits d'importation sont bloqués. Au Canada, notamment le lait, une partie des fromages, les produits laitiers, les œufs, tout ça. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'est-ce qu'on sacrifie? T'sais, qu'est-ce qu'on a déjà scrappé une entente de libre-échange avec le Royaume-Uni là-dessus? Là, parce qu'en sortant, le Royaume-Uni, en sortant de l'Union européenne, il avait comme tombé comme plus d'entente avec le Canada.
Les autres voulaient faire des ententes de libre-échange avec tout
le
monde.
Les autres voulaient faire des ententes de libre-échange avec tout le monde. Puis à un moment donné, ils se sont retirés de la table en disant les Canadiens ne veulent faire aucune concession sur les produits qui sont sous gestion de là. Fait que nous autres, ça ne nous intéresse plus de négocier avec vous.
Ah, puis le Canada est vu dans le monde comme un pays de monopole. Regardez, au niveau des télécommunications, il y a 4 joueurs, là. Il y a 4 joueurs seulement, à peu près, là. TELUS, BCE, Vidéotron puis Rogers. C'est à peu près ça, les 4 qu'on a, grands fournisseurs.
Les télécoms, les banques, l'aviation.
Transport aérien. T'as 5 compagnies, 4 compagnies. Les étrangers veulent venir. Ah, non, nous autres, on bloque. Tu sais, c'est très monarchique, hein. On fait affaire avec la reine, puis... T'as-tu le tress de la reine, là?
Ouais, c'est ça.
Un peu ça, comme quand vous allez en Angleterre, là. Il y a plein de compagnies qui font affaire avec le Buckingham Palace. Ils sont devenus les produits officiels de la reine. Ils payent très cher pour ça, puis ils peuvent avoir le crest monarchique.
Bien, c'est parce que c'est beau. On veut protéger des industries canadiennes. Je pense que tous les pays dans le monde veulent protéger certaines industries. Mais il y a des jours, on se demande, nous, là, les consommateurs, exact. C'est qui nous protège?
Bien, là, on est là. On est rendu à croiser des chemins. Et là, tu as les provinces aussi, la SAQ. Moi, je comprends pas la SAQ là, d'avoir boycotté les alcools américains. Tu as un traité de libre-échange. Tu peux pas sortir les produits des tablettes. Imagine si les Américains font la même affaire. Ils décident du jour au lendemain, tous les produits canadiens, là, dehors. On vous met dehors. Nous autres, on est en faillite, là. On est petits, là. On est 2% de l'économie mondiale au Canada, là.
Ouais, puis je pense qu'on a confondu deux affaires avec ça. C'est qu'il y avait une volonté de la part de plusieurs Canadiens de boycotter des trucs américains. Mais un boycott, c'est un choix individuel. Moi, je peux décider que je boycotte les produits de la Chine. Je peux décider que j'achète pas des produits qui viennent d'Israël ou peu importe.
Ça te revient à toi.
Ça me revient à moi. Exact. C'est mon choix. Mais si les Canadiens et les Québécois étaient déterminés à boycotter des produits américains, il y avait juste à pas de n'acheter. On n'était pas obligé d'y retirer des tablettes.
On est brillants, penser par nous autres.
Ben oui, puis les produits, il y aurait juste eu moins de commandes. Exact. Puis il y en aurait moins vendu. Puis maintenant, sais-tu quoi? Ben si t'en vends pas, tu finis par délister le produit. Mais le fait d'y retirer, en plus, alors qu'on les avait déjà achetés, là. Ça, c'est quand même assez... Ça, fallait le faire. Là.
Mais c'est complètement débile parce que pensez-y, là, toi, tu fais affaire dans un accord de libre-échange. D'ailleurs, là, on est en contravention avec l'accord de libre-échange. On pourrait se faire poursuivre par les Américains. Ils le font pas, mais ils pourraient éventuellement là, puis dire, écoute, t'as signé un accord de libre-échange, t'es obligé de distribuer mes produits à l'ensemble de tes consommateurs. Là, un monopole d'État qui retire tous les produits américains, on s'expose à des grosses représailles. Et là, je comprends que c'est très politique, mais moi, selon moi, ça va revenir assez vite. Là, les Américains ont donné jusqu'au 19 août. Là, je comprends que Mme Fréchette s'en va en élection, puis on joue la corde encore.
Mais c'est là que tu vois le problème aussi du monopole d'État là-dessus. Tu parlais des monopoles tantôt, mais en réalité, si on avait un marché libre de l'alcool, puis que des détaillants comme Costco, ou comme IGA, ou des dépanneurs, les épiceries pouvaient vendre, il n'y a pas personne qui irait dire à IGA, tu n'as pas le droit de vendre une bouteille de vin des États-Unis sur ton...
C'est le consommateur qui aurait le droit.
C'est le consommateur qui l'achète ou qui ne l'achète pas.
Exact.
Mais là, en ayant donné le monopole à l'État, ils peuvent se servir de ça comme un levier politique. Mais moi, je pense que non seulement ça va nuire aux consommateurs, mais comme tu dis, ça nuit à... Ben, c'est comme si on avait voulu se donner un leverage de négociation, dire, regarde, ah, ben, si tu m'ordonnes ça, je vais réinstaurer. Ouais. Mais ça a l'air mal parti.
Ouais, mais là, regarde, il y a des tarifs de 50 %. Là, les Américains vont dire, OK, moi, je vais enlever mes 50 %, puis tu nous donnes quoi en retour?
C'est ça.
Ta taxe Netflix, l'alcool, on veut le retour des... Parce que n'oubliez pas, les producteurs d'alcool aux États-Unis, les Bourbons, tout ça, c'est le Kentucky, c'est le Tennessee, c'est des États pivots importants pour Trump dans ses midterms hein, aussi. Il y a ça, là, dans l'équation, là. Il y a des votes à la clé. Et si ces producteurs-là souffrent, parce qu'il semble-t-il souffrent, le Jack Daniel, ça sort pas pantoute. T'as même des producteurs qui ont décidé de venir faire de la production au Canada. Là. Il y a des... je pense que c'est une espèce d'alcool. Tu sais, les espèces de poppers là, qui goûtent la vanille... Ça goûte la cannelle.
Oui.
Les autres, ils ont décidé d'amener la production à Montréal, dans une usine, pour avoir accès au marché canadien, parce que sinon, ils perdaient trop de ventes.
Mais tu sais, en échange de ça, c'est les producteurs canadiens qui vont en subir les contre-coups aussi. Quand tu vas par exemple, dans les Total Wine aux États-Unis, c'est rempli de whisky canadien, là. Les Américains achètent les whiskies canadiens.
Oui, c'est reconnu.
C'est reconnu. Là. C'est drôle. En plus, ils coûtent moins cher là-bas que chez nous. Là. Mais est-ce qu'on veut qu'ils se mettent à les boycotter?
Non, mais moi, je te le dis, si les Américains font ce qu'on a appliqué ici, on est mort. C'est terminé. Là. On se fait démolir. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre le job là, dans le privé. Là. C'est sûr qu'au public, si vous travaillez pour l'État québécois, l'État canadien, votre chèque rentre.
C'est quoi qu'on dit l'expression « play stupid game, win stupid price ».
Oui, exactement. Voilà. Donc, tout ça, on va continuer à en parler. D'ailleurs, on va avoir un économiste, Mathieu Marchand, qui va venir nous jaser de ça autour de 10h40. Bon, le maire de Québec en Italie, hey, ça fait jaser beaucoup. Le maire de Québec qui donne des leçons à tout le monde sur l'environnement, sur les poêles à bois, sur si. Toujours un petit mot hein, pour nous dire qu'il faut protéger la planète. Lui, en Italie, sur une île paradisiaque avec sa conjointe. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je prends mes vacances, je ne les mets pas sur les réseaux sociaux, mes photos. Je veux pas. Mais là, si toi, tu mets tes photos, puis tu te mets en avant, puis tu vas dans les séjours, puis tu vas dans les co-vedettes, puis là, tu vas sur ci, puis sur ça, puis tu vas mettre ta face, bien, c'est sûr qu'éventuellement, on va en jaser. Là, tu sais, moi, je veux dire, tu étais pour la vertu, puis c'était drôle parce que hier, les gens demandaient à Grok ou demandaient comment qualifier ces gens-là qui donnent des leçons à tout le monde sur l'environnement, mais qui passent des vacances sur un yacht à gaz au large des îles en Italie avec la conjointe, le vol, les GES, tout ça. Et Grok était assez cinglant, là. C'était, écoute, ces gens-là virtueux essaient de nous faire gober toutes sortes d'idées environnementalistes. Mais eux autres pensent, j'ai comme l'impression que ces gens-là se mettent au-dessus de la mêlée, nous regardent de haut en disant « Regardez, c'est pas pour nous, ça. » Nous, l'élite, nous, les gens de bonne conscience, ben on est au-dessus de ça. On est les gardiens des valeurs, on est les gardiens du savoir, c'est tout ça. Puis là, ils nous regardent de haut et ils disent « Regardez, c'est pas pour le petit peuple, là. Les voyages, les dépenses avec l'essence, c'est pas bon. On va vous mettre un tramway. On va vous enfourner toutes sortes de nouvelles mesures pour essayer d'enlever des GES, mais par eux autres mêmes, par leurs propres décisions. » au jour le jour, bien, ça envoie des messages contradictoires. Fait que ça, écoute, moi, j'invente rien. Là. Les réseaux sociaux sont là, les gens commentent, et les gens commentaient de façon assez directe, assez violente. Là. Donc, voilà. Frank, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, un gars comme Marchand qui va s'exposer sur les réseaux sociaux? C'est sûr qu'il y a des haters. Là. C'est sûr que les gens là, vont comme débarrer. Écoute, t'as un moralisateur, un curé de la vertu, là.
Ben, à un moment donné, il faut que tu fasses selon ce que tu prêches.
Absolument.
Tu dis aux gens, ben là, faites plus marcher le poêle à bois. Faut que vous preniez le transport en commun, le transport actif, tout ça. Puis toi, tu fais un voyage. Ça fait penser à l'histoire des. Te rappelles-tu, il y a quelques années, le pacte?
Oui.
Ah oui,
là-dedans, dans le pacte, là, t'avais des moyens donneux de leçons. Là. T'avais des artistes, t'avais des politiciens, t'avais des gens virtueux. Là, tu te regardes, tu sais, je pense que c'est Louis Morissette. Écoute, ça voyage en jet privé, ce monde-là, là. Ça s'invente pas, là?
Non. C'est...
Donc, ils sont là pour quoi? Nous donner des leçons, puis... Mais quoi? Ils sont dans la bonne gang? C'est une église? C'est quoi? C'est un temple?
Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui se voient pas aller là-dedans aussi. Là.
Donne des leçons, mais essaye de...
Mais c'est aussi la tentation qu'ils ont, pour plusieurs, d'être des gens d'influenceurs ces réseaux sociaux, là. Il y a de quoi là-dedans, moi, je trouve. Tu sais, on élit des politiciens, c'est pour nous représenter. C'est pas des. C'est
mais
pas des
moi, ton show avec ta blonde, puis je comprends, elle est dans les médias. Elle ou ça, se la pète. Là,
oh, oui, oui.
Mais elle, dans ses émissions là, de Radio-Canada, là, c'est la vertu totale. Là. Moi, je m'en fous, là, mais donne-moi pas des leçons après ça
non,
sur
c'est ça, c'est
les
ça.
GES. Que tu vas te péter à la face en Italie, puis que tu bois le meilleur vin, tu te promènes en scooter électrique, puis tu as des yaks, puis je m'en fous, là. Mais après ça, viens pas me donner des leçons de morale sur l'environnement. Là.
C'est clair.
À partir de là, tu as perdu tous tes.